À partir de quand apparaît l'écriture maya? Eh bien, elle apparaît en 300 avant Jésus-Christ. Et les chercheurs qui travaillent sur les civilisations précolombiennes ont détecté environ 28 langues. 5 millions de mayas parlent actuellement les langues. Alors, 665 000 yucatèques, ce sont les plus nombreux, qui se trouvent à Chichen et au nord du Yucatan. Vous avez 500 Itzas, c'est celle qui peuplait le Yucatan. C'est vraiment le peuple extraordinaire. Les Itzas, il en reste 500, près de Tikal. C'est-à-dire qu'il en reste presque plus. Ensuite, vous avez 100 000 Sol Palencano qui se trouvent à Palenque et 30 000 Chortiers à Copan dans le Honduras. On ne peut pas dire que les Mayas n'existent plus, ils existent toujours. Ce sont des gens qui ont leur identité. Et cette identité-là, c'est une richesse qu'il faut absolument préserver. Et ils ont eu tellement peur après l'invasion des barbus, les barbus rouges, comme ils les appelaient, qu'ils ont mis de côté un texte comme le Popol Vuh qu'on a retrouvé qu'au XVIIIe siècle. Donc il a été réécrit au moment de la conquête espagnole, mais il a fallu attendre après très longtemps avant qu'on puisse avoir connaissance du Popol Vuh. Cette écriture maya se présente comment? Je vous avais dit que les Égyptiens écrivaient très souvent dans des cartouches ou alors dans des cadras. Mais eux, ils pouvaient écrire de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche. Il suffisait de voir le premier hiéroglyphe et la direction qui donnait la direction de la lecture. Par exemple, s'ils mettaient un ibis avec le bec dirigé vers la droite, il fallait lire vers la droite. Et bien, dans le cas de l'écriture maya, à chaque mot correspond un dessin. Et ce dessin, c'est-à-dire un pictogramme, qui est à la fois phonétique, syllabique, mais également idéographique, c'est-à-dire que un pictogramme pourra également représenter une idée. On a relevé à peu près 1200 signes, qu'on appelle également des glyphes, et comme je vous le disais, ils sont disposés deux par deux dans une sorte de bloc rectangulaire, dans un cadre, aussi en colonne. Vous voyez encore l'identité avec l'Égypte. Ils se lisent de gauche à droite, de haut en bas, écriture gravée. Et cette écriture peut être gravée soit dans la pierre, soit alors elle peut être peinte sur des stucs, soit alors sur des céramiques. L'écriture maya, il ne nous reste rien, à cause des autodafés. La conquête a été réalisée par les catholiques espagnols, par le glaive et par la croix. Et dans le cas des Mayas, ils sont arrivés, c'était fini. Il n'y avait pratiquement plus de civilisation maya. Donc ils n'ont pas eu trop à se heurter. Si, ils se sont quand même heurtés aux Itzas. Les Itzas, eux, lorsque les premiers colons sont arrivés du côté du Yucatan, en haut, dans le Yucatan, à Chichen Itza, eh bien les Itzas sont partis et ont fait le chemin inverse de leur première pérégrination. Ils sont retournés dans les forêts du Guatemala et là, ils ont offert une opposition tout corrélative aux Espagnols. Leurs écrits, ils les faisaient comment? Ils ont utilisé un figuier, le ficus cotinitolia. Les Égyptiens réalisaient des rouleaux qui pouvaient atteindre plusieurs mètres de long. Ils avaient des codex qui pouvaient atteindre jusqu'à 7 mètres de long. Seulement 7 mètres de long, c'est pas facile à ranger dans une bibliothèque. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens faisaient des rouleaux avec les parchemins également. Eh bien là non, ils le pliaient en accordéon et ils formaient ainsi des pages. Et une fois qu'il était plié, ils le pressaient entre deux plaques de bois qui souvent étaient ornées et peintes. Et ils le serraient un peu de la même façon que nous faisons un herbier à l'heure actuelle. Ils mettaient de la chaux sur les fibres végétales. Et ensuite, il disposait un enduit par-dessus, et l'écriture prenait très très bien sur cet enduit, et a très bien résisté. Quand Diego de Landa a décrété l'autodafé sur les écrits mayas, sous le prétexte qu'il y avait là-dedans des choses qui ne correspondaient pas à la religion chrétienne, catholique, apostolique et romaine, eh bien, il les a tous fait brûler devant les Mayas assemblés. C'est une perte colossale. Qu'est-ce qui nous reste? Oui, il nous reste quelques codex on va le voir, quatre codex, et il nous reste deux livres. Le problème, c'est que les deux livres qui ont été écrits, le Popol Vuh et le Chilambalam, ont été écrits alors qu'ils avaient déjà été envahis par les barbus et qu'ils avaient été contaminés par la religion catholique. Mais au fond d'eux-mêmes, il y avait toujours la révolte. Et dans le Chilambalam, ce sont des prophéties vengeresses vis-à-vis des deux envahisseurs, à savoir les Toltecs, les Xiu, et d'autre part les Barbus, c'est-à-dire les Espagnols. Ces quatre codex ont tous été écrits dans la péninsule du Yucatan. Ils ont survécu, on se demande un peu trop pourquoi, certains quand même ont connu les envahisseurs. Alors vous avez le codex de Dresde, Dresdenensis, qui date du 14e siècle, 1300 et quelques. Le codex de Dresde fait 3,50 m de long, il possède 78 pages et c'est un traité d'astrologie. Le codex de Cortés, Cortésianus, est du 16e siècle, donc vous voyez déjà il est matiné, hein, il est plus pur. Il se trouve à Madrid, fait 7 mètres de long, 112 pages, et il traite de la divination et de la liturgie. Le codex Pérésianus, c'est le codex qu'on retrouve à Paris, il est incomplet, il fait 1,50 m, il a 22 pages, il traite de la divination, de la liturgie et de la chronologie. Le codex Grolier du XIIIe siècle, découvert en 1971 par l'Américain Michael Coe, traite également de la chronologie et de la liturgie. Ces codex ont été tenus sous le coude, si j'ose dire, parce qu'évidemment ils ont eu peur des envahisseurs. Tout ce qui a été pris dans les bibliothèques mayas, tout a été récupéré et a été incendié. Et puis nous avons deux livres absolument extraordinaires, le Popol Vuh, le Chilambalam. Pour quelle raison? Parce que ces deux livres ont été écrits alors qu'ils étaient envahis, alors qu'ils savaient qu'ils arrivaient à la fin d'un monde. Le Popol Vuh aurait été écrit en langage quiché du Guatemala, 1546. Ensuite, le Chilambalam en 1520, et lui, c'est dans le Yucatan. Le premier relate la création du monde, et le Chilambalam, lui, relate plutôt la migration des tribus et énonce les prophéties vengeresses d'un prêtre, on pense que c'était un prêtre, qui s'appelait le Chilambalam. C'est pour ça que la civilisation amérindienne est touchante. C'est parce qu'elle n'a laissé aucune postérité. Un peuple occidental est arrivé et il a tout détruit. Mais, heureusement, quelques écrits ont persisté. Et ça nous permet de quoi? À nous occidentaux, de faire notre acte de contrition, mea culpa, et d'essayer de rêver sur ce que fut ce peuple. Et que sommes-nous au sein de notre propre civilisation hyper-dominatrice européenne sur les autres? Eh bien, nous sommes des prédateurs. Toute la relation de notre société, et c'est ça que gèrent les lois, c'est une civilisation de proie prédateurs. Relation proie prédateurs. Chacun est une proie pour l'autre, chacun est un prédateur pour l'autre. Dans le Popol Vuh, c'est le livre du temps. Il a été baptisé par l'abbé Brasseur de Beaubourg, on n'y peut rien, en 1861. Donc on a conservé le terme, mais il est clair que ces écrits-là ne s'appelait pas Popol Vuh à cette époque-là. Donc le livre du temps, c'est quoi? Cela signifie en fait le livre de l'histoire, le livre de la séquence du temps, du déroulement des événements. Voilà ce qu'est le Popol Vuh. Je vous rappelle quand même des dates pour que vous situiez bien sur l'échelle du temps, le temps des Mayas. Christophe Colomb, 1492, découvre l'Amérique. 1519-1525, destruction de l'Empire aztèque par les Espagnols de Cortés. 1533, destruction des Incas du Pérou par Pizarro. Il a fallu 200 ans aux Incas pour créer un empire de plus de 2000 km de long, hyper centralisé, ce qui a créé leur perte, vous vous en souvenez. Et en quelques jours, il a suffi que Pizarro se saisisse de l'Inca pour que tout l'Empire Inca s'effondre. 1533-1517, première expédition de Hernández de Córdoba dans le Yucatán, il est arrivé sur un pays qui était déjà mort. En tant que civilisation, attendez. Tout s'est joué par les évêques catholiques qui lançaient des autodafés quand ils voyaient qu'il y avait des résistances et qu'il y avait une religion qui ne correspondait pas à leur loi. Qu'est-ce que c'est une autodafé? C'est une condamnation. Alors, la condamnation est en principe spirituelle, mais la punition est bel et bien corporelle, y compris la peine de mort. Et la peine de mort pour les écrits, c'est d'être brûlé. Les sinistres individus qui se sont particulièrement illustrés, c'est Zumarraga à Mexico et le père Diego de Landa à Mani, Yucatan, en 1562. Il a eu le toupet d'écrire. Nous rencontrâmes des livres qui contenaient des superstitions et des mensonges du démon. Nous les brûlâmes en entier, ce qui les impressionna beaucoup et les affligea grandement. Il recherchait à les impressionner et à les affliger, c'est-à-dire couper l'énergie de leur propre religion. Le Popol Vuh a été retrouvé qu'en 1701 par le dominicain Francisco Ximénez. Quand vous brûlez l'histoire de quelqu'un, vous brûlez les individus eux-mêmes. Ils n'ont plus de recours au passé. La tradition orale se perd quand la tradition écrite s'installe. Ils ont souffert des larmes de sang. Or, pour eux, le symbole de la croix est valable pour un judéo-chrétien. Dieu, c'est toujours une peur. Et pour eux, le crucifix, c'était une croix. Chez eux, la croix, c'était les quatre points cardinaux. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'un Dieu, qui par principe est éternel, se fasse mortel. Et une fois mortel, il se fait crucifier et il meurt. Et il leur disait, quand ils étaient évangélisés, mais comment votre Dieu peut-il être humain, fait de chair et de sang, et comment peut-il mourir alors qu'un Dieu n'est pas immortel, il est éternel, car un Dieu n'a pas de naissance et il n'a pas de mort, il est. Donc ce qu'on retrouve dans le Popol Vuh, c'est pas l'histoire maya. C'est un peu d'histoire maya avec beaucoup d'histoire catholique. On lit quelque chose d'assez curieux. Ils ont, c'est-à-dire eux, nous avons goûté la paix grâce à l'évêque Don Francisco marocain, mais le peuple reste divisé. Or cet évêque-là, il faisait partie de l'expédition de Pedro Alvarado en 1530, ce qui veut dire que la paix qu'il a imposée, c'était une sorte de Pax Romana, c'est-à-dire la paix du glaive. Et ce n'était pas la paix du Christ. J'essaie de comprendre ce qu'aurait pu dire le Christ s'il avait vu ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il reconnaîtrait son enseignement? Mais attendez, vous pouvez tuer des gens parce qu'ils possèdent un royaume, vous ne pouvez pas tuer des gens parce qu'ils possèdent un royaume spirituel.